Réplique, malaise dans la démocratie, avec Alain Caillé et Jean-Pierre Le Goff. Alain Caillé, qui dirige depuis sa fondation la revue du MOS, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, a publié l'année dernière Le convivialisme en 10 questions. Il y définit le convivialisme comme un art de vivre ensemble qui permet aux humains de prendre soin de la nature sans dénier la légitimité du conflit, mais en faisant un facteur de dynamisme et de créativité. Jean-Pierre Le Goff vient d'écrire « Malaise dans la démocratie ». On trouve dans cet ouvrage, entre autres anecdotes significatives, le récit du sommet des consciences pour le climat qui s'est tenu à Paris en juillet 2015 au Conseil économique, social et environnemental. L'appel pour ce sommet invitait à s'interroger en son fort intérieur sur la question « Why do I care ?». Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, avait préparé le terrain en rencontrant les représentants des différentes religions, juives, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, sikhs, taoïstes, confucéennes. Certains de ces représentants avaient signé l'appel et assistaient au sommet, aux côtés d'envoyés du peuple Guarani Kayona d'Amazonie, de l'association altermondialiste ATTAC, du président du Conseil économique et social, d'un astrophysicien, de son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco. Arnold Schwarzenegger, absent pour cause de promotion de son nouveau film Terminator Genisys, est apparu sur une vidéo exhortant les participants à inspirer le monde. Les débats furent entrecoupés de pauses musicales du Moyen-Orient et d'Asie et d'un bref exercice de relaxation proposé par une sœur bouddhiste. Dans le discours de clôture, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a salué un moment de grâce et de dépassement de ses intérêts particuliers, d'autant plus extraordinaire qu'il se fait pour des gens que nous ne connaissons pas, parce qu'ils ne sont pas encore nés. Voici donc ma question. Faut-il considérer cette cérémonie comme un début de réponse convivialiste à la crise dans laquelle nous sommes plongés, ou comme un symptôme de cette crise, Jean-Pierre Le Goff?
Faut demander à Alain Caillé en ce qui concerne le convivialisme. Moi, je pense que c'est un symptôme tout à fait particulier de la crise de la démocratie et je dirais de ce que j'appelle, puisque le passage que vous venez de citer fait partie du chapitre concernant les nouvelles religiosités diffuses. C'est comment, à partir d'un certain nombre de problèmes tout à fait réels qui sont posés par l'écologie, se greffent sur ces problèmes réels de nouvelles conceptions du monde qui me paraissent à l'opposé de notre héritage occidental, j'allais dire, et européen. Et que tout cela se fait en douceur, avec évidemment les meilleures intentions du monde et, j'allais dire, une généralité assez confondante de bons sentiments. Et ce qui s'est passé là n'est qu'un élément le plus visible, je l'ai pris comme tout à fait symptomatique, d'un mouvement qui se répand dans l'ensemble de la société, notamment par l'éducation, par de multiples associations, qui, prenant encore une fois en compte un certain nombre de problèmes, notamment écologiques, font passer une conception du monde inspirée, j'allais dire, quand je regarde par exemple Pierre Rabhi ou bien d'autres, d'un néo-bouddhisme, j'appelle néo-bouddhiste, qui n'est pas forcément la religion bouddhiste qu'elle télé structurée, et ce que j'appellerais des nouvelles formes de paganisme. Et tout ça se répand en douceur, notamment à l'école, moi j'avais analysé il y a quelque temps ce qui se faisait au nom du développement durable, et en analysant le discours qui accompagnait évidemment les problèmes réels du développement durable, j'avais été, je dirais, plus qu'étonné de voir qu'on ne cessait de dire aux enfants que l'homme, par exemple, ou l'humanité n'est qu'une espèce parmi d'autres, qu'il faut comprendre, évidemment, un élément qui est de l'ordre du constat, mais que nous sommes un élément d'un grand tout, et que toute cette, cet écologisme fondamentaliste se diffusait en même temps que la prise en compte de problèmes réels qui peuvent se poser. Voilà un peu comment je vois les choses.
Alain Cayet.
Ça tombe très bien, cette entrée en matière. Je me rappelais ce matin, je ne sais pas pourquoi, cette phrase de Woody Allen disant « Je ne vois pas pourquoi je m'intéresserai aux générations futures, elles ne m'ont jamais rien donné ». C'est une manière de raisonner, mais malgré tout, je crois que nous sommes bien obligés maintenant de nous intéresser aux générations futures, ne serait-ce que parce que ces générations futures, c'est quasiment la nôtre déjà, en raison de l'accélération des problèmes auxquels nous allons avoir à faire face. Donc je comprends assez bien les réactions de Jean-Pierre Le Goff, que je connais. Je vois bien comment il écrit, comment il réagit. On peut trouver un ensemble de ridicules ou de choses bizarres, ce mélange du Dalai Lama, de Schwarzenegger, etc. Mais malgré tout, ce sommet des consciences, il traduit une prise de conscience. La prise de conscience que nous sommes face à tout un ensemble de crises extraordinairement violentes qui risquent de nous affecter, qui vont être d'ailleurs très prochainement des crises financières, donc des crises économiques, et donc des crises sociales, donc des crises politiques, et bien sûr, en arrière-plan, la crise écologique. Face à cela, quels sont nos moyens d'action, nos perspectives? Il n'y en a pas 36 000. Nous voyons bien que nous sommes impuissants dans le cadre des jeux politiques institués, dans les différents pays qui existent, et que donc la seule chance que nous ayons de faire quelque chose qui puisse nous permettre de réagir à ces différentes catastrophes qui nous menacent, c'est de faire émerger une conscience mondiale. Et de ce point de vue-là, la rencontre entre eux, des sensibilités chrétiennes, bouddhistes, musulmanes, autres, politiques et marxistes également, puisqu'il y a tout ce mélange-là, eh bien, ça me paraît la seule voie à suivre et aller dans le sens de ce que j'appelle le convivialisme.
Donc, il faut passer, selon vous, sur le ridicule apparent de cette cérémonie œcuménique pour voir le début d'une prise de conscience absolument indispensable.
Tout à fait. Et de même, d'ailleurs, il y a eu, après cette rencontre que Jean-Pierre Le Goff signale dans son livre, il y a eu, le 1er novembre dernier, au Grand Rex à Paris, une réunion qui s'appelait 24 heures de méditation pour la planète, qui réunissait, là encore, in absentia, le pape, le Dalai Lama, il y avait 3500 personnes, mais c'était diffusé à des millions de personnes à travers le monde. Ben, je pense que ça va dans le bon sens.
Jean-Pierre Le Goff.
Je pense que c'est la question, si vous voulez, de la citoyenneté du monde qui se redéploie aujourd'hui à travers la question de l'écologie. C'est-à-dire que les nations, quand vous regardez la planète entière, la question des nations, la question de la différence des civilisations ne pèse pas lourd. Et comme dirait Pierre Rabhi, ce sont même des obstacles, même les frontières, puisque nous avons une planète commune. En fait, ce qui se joue, à mon avis, c'est une autre approche de la condition humaine, de la nation et de la civilisation. Et que cette approche, qui peut tout à fait se discuter, et me semble-t-il, est contradictoire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en discuter encore une fois, mais est contradictoire avec l'héritage tel qu'il nous a, l'héritage culturel, tel qu'il nous a été légué à travers les générations, bon gré, malgré, qui est la question de l'Europe, de la nation, et j'allais dire des lumières, dans la mesure où les lumières donne une dignité particulière à l'être humain, ce n'est pas du tout, si vous voulez, la logique « je suis purement et simplement un élément d'un grand tout ». Il y a une dignité particulière de l'être humain dans la conscience qu'il a de lui-même, dans la pensée avec lequel il puisse s'arracher de cette espèce de grand tout. Et ça, c'est un élément central de notre héritage, et pour moi, ce qui est en train de se passer avec, encore une fois, ce que j'appellerais une idéologie écologiste, qui ne se confond pas avec l'idéologie, c'est ce point est frontalement remis en question.
Oui, mais alors Jean-Pierre Le Goff, dans le cadre de cette critique, comment faites-vous pour tenir compte, malgré tout, de l'urgence écologique elle-même? Dans le livre d'Alain Cayet, je lis ceci, mais c'est un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas demain, mais dès aujourd'hui, qu'on commence certains jours à ne plus respirer à Pékin ou à Séoul. Et Alain Cayet aurait pu ajouter aussi New Delhi. Et le problème
et Paris.
Commence à se poser en Europe et même à Paris. Donc il y a une inquiétude montante face à un problème de plus en plus puissant, de plus en plus évident. Alors, comment conciliez-vous l'urgence écologique et la critique de l'idéologie écologique et des bons sentiments que vous faites par ailleurs?
D'abord, je crois qu'il faut dire une chose, c'est que le problème écologique est apparu à un certain stade du développement des sociétés démocratiques européennes. Et il est apparu au moment où il y avait précisément un progrès. Et que la période de croissance entre 45, pour dire les choses, et 60, aujourd'hui elle est très remise en cause, mais n'oublions pas que c'est sur ces bases qu'on est sorti d'une certaine façon d'une question qui a été posée à l'humanité depuis le 19e siècle, la révolution industrielle et bien avant, qui était la question du paupérisme. Sur ces bases, on peut parler, effectivement, comme a parlé Raymond Aron en 1969, immédiatement après 68, de désillusion du progrès. On peut parler également, comme en a parlé la CFDT en
1968,
des dégâts du progrès. Mais c'est une chose de raisonner en désillusion, c'est une chose de raisonner en dégâts et de rééquilibrage. Autant je suis d'accord que de dire, eh bien, c'est la question du progrès lui-même qui est en question. Et derrière le progrès, ce n'est pas simplement la technoscience ou le développement d'économies scientifiques et techniques. C'est tout un héritage, une façon de se positionner par rapport au monde avec une illusion qui est, à mon avis, malgré tout, de pouvoir revenir, cette fois-ci projetée dans l'avenir, à une sorte de réconciliation de l'homme avec la nature qui, à mon avis, met en question toute une marche historique.
Alain Caillé. Je vais proposer une motion de synthèse qui nous me laissera à la fois d'accord et en désaccord. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à raisonner d'au moins quatre points de vue différents sur tous ces problèmes-là. Il nous faut raisonner du point de vue des individus dans leur singularité. Il nous faut raisonner du point de vue de ce que j'appelle les personnes, c'est-à-dire les individus insérés dans des relations de dons et de contre-dons, de dettes, de créances avec des personnes concrètes, la famille, leurs amis, etc. Il faut raisonner du point de vue d'une citoyenneté, soit de l'appartenance à un État-nation ou à une religion, un collectif, un grand collectif. Et là, on est soumis à la loi de ce collectif. Et puis, il faut raisonner du point de vue de l'humanité dans son ensemble. Bien. L'articulation entre ces quatre niveaux-là se fait de manière différente à chaque période historique. Actuellement, la dimension de l'humanité dans son ensemble commence à prendre une importance considérable, pour les raisons qu'on vient de dire, pour des raisons écologiques et bien d'autres encore. Alors, ce qui me surprend dans les réactions de Jean-Pierre Le Goff, c'est qu'il a tendance à privilégier presque exclusivement le troisième niveau, le niveau de la nation, le niveau de l'appartenance citoyenne. Moi, je n'ai rien contre, je pense que c'est un niveau absolument fondamental, dont je ne serai pas en désaccord avec tout un ensemble de choses qu'il dit. Mais simplement, il ne faut pas que ce souci de ne pas oublier l'existence de la nation, de sa tradition, de son inscription, etc., fasse oublier d'autres dimensions du problème, qui sont les problèmes des individus d'une part, ou des personnes, et le problème de l'humanité en général.
Mais quelle politique envisagez-vous, justement, qui soit à l'échelle de l'humanité ? Est-ce que vous comptez sur les États et justement leur prise de conscience collective qui a semblé se manifester dans la conférence pour le climat, ou est-ce que vous comptez davantage sur l'émergence d'une société civile mondiale, par-delà les nations, et qui pourrait nous faire basculer dans un autre paradigme, Alain Caillé?
Oui. Sur les deux, il est bien évident qu'aucune mesure politique concrète ne pourra être prise en dehors des États-nations ou de fédérations d'États-nations, à supposer qu'elles puissent voir le jour, ce qui n'est pas du tout évident. Mais en amont de cela, comme on constate que le jeu politique, le champ du débat politique est totalement bloqué pour tout un ensemble de raisons, en amont de cela, rien ne peut bouger si l'opinion publique elle-même ne bouge pas, si l'opinion publique mondiale ne bouge pas. Et elle ne pourra bouger qu'à travers des prises de conscience des catastrophes dont je parlais tout à l'heure, quand elles vont survenir, que ce soit des catastrophes économiques, financières, climatiques, et je dirais des catastrophes morales également. Alors oui, ça passera par l'activation de ce qu'on peut appeler, avec Patrick Vivray, une société civique, pas seulement la société civile, mais pas l'ensemble, mais l'ensemble des associations de gens qui ont le souci du bien commun, qu'il s'agisse du bien commun à l'échelle nationale ou du bien commun à l'échelle de l'humanité tout entière.
Dit comme ça, vous ne pouvez pas être contre. Le problème, c'est le rapport avec la réalité effective du monde à un moment donné dans lequel nous sommes engagés. C'est ça qui fait problème. D'autre part, je dirais que l'humanité naturellement fait une, mais comme dirait un néo-bouddhisme, ce n'est pas simplement la planète. Il faut relier aussi à l'ensemble des êtres de l'univers, au Big Bang. C'est aussi un discours idéologique que l'on entend et qui est diffusé aujourd'hui. Alors la question de la façon de raisonner de ce courant, je dirais que c'est une vision très noire de la modernité, très très noire, où l'ambivalence n'existe plus, avec d'ailleurs des contradictions, puisqu'on prêche un certain nombre de valeurs, si vous voulez, contre lesquelles on ne peut pas être en désaccord, mais en même temps, on sait en même temps, évidemment, bien profiter de la modernité, sous ses aspects techniques, etc. Et je dirais que cette vision noire va de pair avec l'idée que, comme il y a un tel décalage entre cette révolution, j'allais dire mentale, qu'il faudrait accomplir pour changer notre rapport au monde, et la réalité de mentalité des citoyens ordinaires qui sont dans la consommation, qui essaient de vivre tant bien que mal dans la crise, eh bien, il y a une vision où, à ce moment très noir, va arriver une catastrophe. Catastrophe écologique, catastrophe économique. J'ai entendu ça dans le temps avec cette fameuse crise économique du capitalisme qui, enfin, allait permettre de faire prendre conscience à la masse un peu aliénée dans la société de consommation de la réalité. Et je dis, il y a un côté, dans le convivialisme, je le dis, prophétique, c'est-à-dire les nouveaux prophètes. Il y a une espèce de messianisme qui est extrêmement présent. Et je pense que c'est une façon de faire de la politique avec laquelle j'ai rompu depuis longtemps. Je pense qu'il faut effectivement, il y a un poids de la critique par rapport aux, j'allais dire, aux effets négatifs de la modernité et de ce monde moderne. Mais je suis très critique sur certains de ces aspects. Pour autant, je me sens totalement moderne, si vous voulez. Et je ne crois pas que c'est par l'arrêt de la croissance, notamment parce que je trouve très sympathique, si vous voulez, toutes ces... Et je prendrais Cannes, le marché paysan, que je trouve très sympathique. C'est le seul lieu où le samedi, quand il fait beau, les anciens et les nouveaux habitants se retrouvent. Mais je n'en ferai pas une stratégie politique. Ça, je pense qu'il y a un côté, excusez-moi, dans ce convivialiste, qu'on peut trouver sympathique, mais très utopiste, et je dirais très systémique. C'est-à-dire que l'utopie, au sens de l'utopie qu'on a connue, il y a un certain nombre de principes qui encadrent l'État, 4 principes, 3 points, etc. Et tout ça me semble sans rapport, en décalage énorme. Et comme ce décalage est énorme, ce n'est que par une catastrophe que tout d'un coup, la grande masse des citoyens vont prendre conscience. Moi, je raisonne maintenant en dehors de ce schéma de prise de conscience et de, j'ai dit, révolution culturelle, d'une certaine façon.
Alain Caillé.
Alors, plusieurs choses. D'abord, je crois que Jean-Pierre Le Goff raisonne en faisant beaucoup trop d'amalgame. Les convivialistes sont extraordinairement divers. Il y a des gens aussi variés que Edgar Morin, Luc Boltanski, Jean-Claude Michéa, Jean-Pierre Dupuis, etc. Donc, ça fait quand même un spectre extraordinairement large de gens qui ne correspondent pas du tout aux caricatures qui viennent d'être données, hein, et qui simplement prennent conscience de quelques problèmes centraux, des problèmes que Jean-Pierre Le Goff ne veut pas voir pour différentes raisons, que je comprends bien, qui viennent de dire très simplement. Et, ayant peur de retomber, je dirais, dans ses erreurs de jeunesse, dans quelques passions un peu totalitaires, il les projette sur des courants actuels. Et c'est comme s'il n'y avait pas de problème à traiter. Pourtant, c'est ce que disait Alain Finkielkraut à l'instant. La crise écologique, elle est bien là. La crise des subprimes, elle a bien été là. Elle va revenir. Donc tout ça, il va bien falloir l'affronter. On ne peut pas dire, je ne veux pas m'en soucier, parce qu'il y a eu de l'utopisme hier. Voilà.
Mais alors, justement, sur la crise écologique, Alain Caillé, vous dites qu'il faut aujourd'hui y répondre en... approfondissant et en radicalisant l'idéal démocratique. Mais je voudrais prendre un exemple français, national, qui est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement, après s'être targué d'avoir réussi à arracher un accord dans la conférence pour le climat, veut lancer des travaux de cet aéroport qui ne peut qu'aggraver les choses en matière de pollution. Et il vient d'être décidé que tout cela serait soumis à référendum, de manière à pouvoir faire coexister au gouvernement Jean-Marc Ayrault, qui est très favorable
nous sommes d'accord
à cela, et Emmanuel Coste, qui lui est hostile. Mais justement, le gouvernement compte sur la démocratie pour, dans le Grand Ouest, pour gagner et pour pouvoir, au mois d'octobre, entamer les travaux. Autrement dit, l'application de l'idéal démocratique peut très bien, si vous voulez, contribuer à aggraver les choses. Et c'est là que je retrouve, presque malgré moi, Heidegger, lorsque dans son entretien de Spiegel, il dit « il faut faire correspondre un système politique à l'âge technique ». Et quel système pourrait lui correspondre ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne suis pas persuadé que ce soit la démocratie. Et il dit, un peu plus loin, tout fonctionne, c'est bien l'inquiétant que ça fonctionne, et que le fonctionnement entraîne toujours un nouveau fonctionnement, et que la technique arrache toujours davantage l'homme à la Terre, pas la planète. Parce que la planète, c'est une manière encore d'arracher l'homme à la Terre, ce mot de planète, et l'en déracine. Donc, on a l'impression que la démocratie joue son rôle dans cette espèce de fonctionnement perpétuel et insensé. Voilà pourquoi je m'interroge sur votre affirmation selon laquelle c'est en radicalisant l'idéal démocratique qu'on répondra au problème écologique qui est aujourd'hui le nôtre.
Plusieurs questions. D'abord, première question qu'il faudrait traiter, et que d'ailleurs Jean-Pierre Le Goff esquisse dans son livre. Sommes-nous toujours en démocratie? Ça, c'est une première question, je n'en suis pas absolument persuadé. Bon, premier aspect. Deuxième question, sur quoi reposer l'adhésion aux valeurs démocratiques? Je détaille un petit peu parce que c'est un des enjeux centraux pour moi de l'affaire du convivialisme. Il me semble qu'une des raisons principales qui a permis de surmonter les totalitarismes du XXe siècle, ça a été les Trente Glorieuses. La perspective d'une croissance ininterrompue, l'espoir qui était donné à tout le monde d'être chaque année un petit peu plus riche et que ses enfants seraient un peu plus riches que leurs parents. Je reviens à ce que disait Jean-Pierre Le Goff tout à l'heure. Il parlait de l'utopie, de la décroissance, de l'arrêt de la croissance. C'est pas une utopie. Moi, je ne suis pas décroissant personnellement. Je ne me prononce pas sur les bien fondés ou sur les bienfaits ou les méfaits de la croissance en général. Je constate simplement que la croissance n'est plus là et qu'elle ne reviendra pas pour des raisons qu'on pourrait discuter en détail. Je parle de croissance du PIB, je ne parle pas du reste. Je parle de croissance de la distribution des revenus monétaires. Il n'y aura plus de croissance significative dans les pays développés. D'ailleurs, elle commence à baisser également dans les pays émergents. Et de toute façon, elle est écologiquement intenable. Nous sommes donc confrontés à un problème d'une simplicité biblique à formuler et parfaitement, épouvantablement complexe à résoudre. Comment refonder l'adhésion aux valeurs démocratiques si on ne la fait pas reposer sur l'espoir d'un enrichissement matériel infini pour tout le monde? Et là, si on pose cette question-là, on voit bien quelles sont les autres questions qui sont évoquées en écho. On s'aperçoit qu'au fond, toutes les grandes conceptions de la modernité, libérale, socialiste, anarchiste, communiste, ont reposé sur l'idée que le facteur, comment dire, le problème principal de l'humanité, c'est la rareté matérielle. S'il y a du conflit entre les humains, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour satisfaire les besoins. Si on dit ça, il faut davantage de croissance. Or, nous arrivons à un stade où, premièrement, il n'y a plus de croissance, donc l'espoir de l'enrichissement infini n'est plus tenable, et deuxièmement, c'est écologiquement insupportable. Il faut donc inventer, si nous ne voulons pas basculer dans la barbarie totale, pas douce, la barbarie dure, il nous faut donc inventer les moyens de refonder des valeurs démocratiques en ne les faisant pas reposer sur l'espoir d'un enrichissement indéfini.
Et vous n'avez pas répondu sur Notre-Dame-des-Landes. C'est la démocratie.
Parce que c'est de la manipulation démocratique au jour le jour, c'est du jeu politicien.
C'est compliqué de dire ça, parce que si les gens se prononcent plus pour cette démesure, pour cette hubris.
Mais on verra bien s'ils le font.
En tout cas,
mais je ne dis pas que le jeu soit. La partie soit gagnée nécessairement.
Jean-Pierre Le Goff.
Je pense qu'il y a un tel décalage. Je ne peux pas rentrer dans ce système qui pour moi est un système coupé de la réalité et qui consiste à englober dans un grand tout la dimension éthique, civilisationnelle et de la politique démocratique. J'ai abandonné, et non pas parce que je serais désillusionné de je ne sais pas quoi, je pense qu'en positif, quand on est en démocratie, on distingue les ordres. Or, le problème de cette utopie, parce qu'à mon avis, c'en est une, et elle a l'avantage d'être très généreuse, mais en même temps, je pense qu'elle résonne dans une dichotomie où le monde moderne est totalement noir et va arriver un futur qui va nous libérer. Alain Cayem disait que je caricature. Écoutez, je vais citer quelques points de ce manifeste du convivialiste. Cette voie n'a de chance d'être empruntée que si 10 millions, des dizaines et des centaines de millions d'hommes et de femmes se convainquaient qu'elle est notre seule issue désirable possible. Et il s'agit comment faire pour ça? Eh bien, imposer une ferveur démocratique quasi-religieuse. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette logique? Je continue. Messianisme en un sens, car il s'agit bien en effet pour l'humanité de se sauver, mais en sachant non pas que seul un Dieu peut nous sauver, à Heidegger, mais que seule l'humanité pourra se sauver. Et bon, alors on est quand même, je pourrais parler dans mon livre de Pierre Rabhi, hein, qui est quand même, qui est très gentil. Le problème, c'est qu'on a affaire avec des gens gentils.
Si vous voulez. Je ne sais pas s'il est si gentil que ça. Parce qu'il a été révélé que il était sur certains points conspirationniste, négationniste, ouais. Qu'il mettait en doute la réalité des attentats du 11 septembre. Donc la gentillesse de Pierre Rabhi est sujette à caution.
Oui, mais bon, j'en parle longuement. La politique de l'amour de Patrick Vivray. Excusez-moi. Moi, j'ai toujours pensé que c'est très mauvais de faire de la politique avec des sentiments. Je parlerai pas de... Alors, quant à Edgar Morin, qui vous dites c'est très divers, et il y a cette idée de la place en Ukraine, il y a aussi la place qui s'est passée, les mouvements qui ont eu lieu en Égypte, auxquels se ramènent... On a affaire à un vaste panier, excusez-moi, où tout c'est un grand méli-mélo, mais le convivialiste et la théorie du don a la clé pour interpréter tout ça et l'unifier. Je n'y crois pas. Voilà. Et je terminerai par une citation de Morin, puisque qui lui propose, et c'est dit dans le manifeste, on va prendre aussi dans les différentes spiritualités. On va faire un bricolage qui me paraît tout à fait symptomatique de ce que j'explique dans mon livre, qui est lié totalement à la crise des démocraties. Juste un mot sur Edgar Morin. On fait une vaste synthèse. La synthèse qu'il fait, c'est l'idée humaniste de l'époque des Lumières, le sentiment de la nature de l'ère romantique, qui retrouverait la relation ombilicale et nourricière avec la Terre, faire converger la commisération bouddhiste pour tous les vivants et le fraternalisme chrétien et le fraternalisme international, héritier laïque et tout est comme ça. Je pourrais donner, dans mes recherches sur le néo-bouddhisme, je suis tombé sur une conférence où Patrick Vivray était dans l'histoire de le mindfulness, hein, où... Si vous voulez, je peux vous lire, il s'agit de transformer toute notre éducation dans une ancienne chartreuse près de Montpellier où se sont réunis ces intellectuels dont beaucoup ont signé. Alors évidemment, c'est très varié, la diversité fait la richesse, mais c'est une façon de dire, ça peut être très confus. Et par exemple, il s'agissait d'une éducation qui ne soit pas simplement mentale et conceptuelle. Nous espérons une éducation émotionnelle, sensitive et transformante. Le tout avec un néo-bouddhisme qui me... sidère d'une certaine façon. C'est comment aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels peuvent, comment dire, être ouverts, mais on peut être ouvert au bouddhisme, on peut être ouvert à beaucoup de choses, mais dans une espèce d'ouverture mondialiste naïve, et comme disait Paul Ricoeur, pour être ouvert à l'autre que soi, encore faut-il qu'il y ait un soi. Et ce qui est en question fondamentalement, c'est la crise de notre héritage qui nous spécifie dans l'ensemble des civilisations et qui fait qu'il y a, à mon avis, un angélisme, un méli-mélo de bons sentiments.
Alors, Alain Caillé.
Alors, j'entends chez Jean-Pierre Le Goff un très puissant messianisme de la nation et de la République. C'est ce qui anime absolument toute votre élaboration. Alors, première remarque. Par ailleurs, il est strictement impossible de répondre à une phrase prise au titre de son contexte d'Edgar Morin, une autre de Patrick Vivray, une autre de Pierre Rabhi, etc. Et de dire tout ça, ça fait un ensemble contre lequel je me lève. Bon, la discussion ne peut pas se mener comme ça. Et si on veut discuter, il faut discuter du convivialisme en tant que tel, non pas des phrases de X, un tel, etc., même s'ils ont signé. Mais le problème de rassembler tous ces gens-là, c'est de les mettre d'accord sur le plus petit commun dénominateur qui vise partager. Donc, je ne vais pas assumer les phrases de X, Y, Z, etc. Alors, je reviens.
Manifeste pour un manifeste du consignalisme signé Alain Caillé. Moi, je ne peux pas discuter. C'est aussi un mode où vous dites une chose très précise et après, on glisse.
Mais pas du tout.
Non, est-ce que vous assumez, par exemple, la question du messianisme et de l'humanité tout entière qui pourra se sauver et la conjonction d'un désir?
Tout à fait.
Donc, vous l'assumez. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé.
Alors, j'aurais une question pour l'un et pour l'autre.
Mais je voudrais juste ajouter un petit mot pour qu'on clarifie un petit peu les choses. On peut discuter des fondements religieux, de l'adhésion quasiment passionnelle à la République, à la nation. Oui. On voit bien que c'est ce qui anime Jean-Pierre Le Goff. S'il n'y a pas d'adhésion passionnelle à la démocratie, il n'y aura pas de démocratie. Je ne veux pas dire autre chose. Pour revenir à l'essentiel du manifeste convivialiste, il y a une phrase qui a fait véritablement débat entre tous les signataires, qui, je le rappelle, sont extrêmement variés. Ça va de la gauche de gauche au centre-gauche, et ça pourrait même aller à droite assez largement. Bien. Quelle est la phrase qui a véritablement fait débat? C'est une phrase que j'emprunte à Marcel Mauss, que je crois absolument essentielle, et qui explique que le problème central de toutes les sociétés humaines, c'est de faire en sorte qu'elles puissent s'organiser pour permettre que les humains puissent s'opposer sans se massacrer, voilà. Disait Marcel Mauss. S'opposer sans se massacrer, il ajoutait, et se donner sans se sacrifier. Pourquoi est-ce que cette phrase a fait débat? Eh bien, parce qu'il y avait d'un côté les signataires à sensibilité plutôt religieuse, disant, mais pourquoi s'opposer? Il faut s'aimer, il faut coopérer. Et puis, il y avait d'autres, l'autre côté, les marxistes, disant, mais c'est quoi ces histoires d'amour et de coopération? Il n'y a que le conflit. Eh bien, je crois que cette phrase est absolument centrale. S'opposer sans se massacrer, on n'est pas du tout dans l'angélisme.
Bien alors, ma question, Jean-Pierre Le Goff, elle est celle-ci. J'entends très bien votre critique, mais que répondez-vous à l'économiste Kenneth Boulding, cité par Alain Caillé dans son livre, celui qui croit qu'il est possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste? Vous répondez quoi?
Oui, je pense que je vais retourner la question. Que fait-on aujourd'hui? Parce que tout ça est bien, mais j'aimerais... Enfin, quand on fait de la politique en démocratie, qui, à mon avis, est spécifique, et comment dire, est autonome, enfin relativement autonome, de la question éthique et philosophique. Et c'est ce mélange des genres qui m'inquiète un peu. Quand on fait un certain nombre de propositions sur la non-croissance ou le ralentissement de la croissance, j'aimerais qu'on chiffre, si vous... avec le PIB actuel, on n'arrive pas à financer le RSA. Bon, d'autre part, je ne vois pas comment on va pouvoir, dans une planète où il y a la question de la démographie, c'est-à-dire le développement, comment on va pouvoir nourrir ces gens sans croissance? Que ce modèle de la croissance soit rééquilibré, j'en serais tout à fait d'accord. Mais ce qui est en cause, c'est quand même cette histoire de la croissance qui, en elle-même, serait porteur d'une négativité. Je ne peux pas le prendre. Ça veut dire qu'on rééquilibre. On est à un moment, à un stade de l'humanité, on doit rééquilibrer. De là à parler d'harmonie, d'utopie, de changement de civilisation, de rupture. Là, je pense qu'on est vraiment dans le gauchisme culturel et de la révolution culturelle généralisée.
Si oui, Jean-Pierre Le Goff a une recette magique pour relancer la croissance, je pense que tous les gouvernements du monde seront extrêmement intéressés.
Mais je n'ai pas la prétention de ça. C'est beaucoup plus humble. C'est que quand on est en démocratie, on ne peut pas se permettre. Je pense que la façon de faire de la politique, on me reproche sans cesse mon passé, que je serais désillusionné. Mais j'ai rompu avec une façon de penser la politique dans une utopie globalisante où la politique spécifiquement soit dissoute dans un grand tout.
Oui, mais alors Jean-Pierre Le Goff, il faut choisir aussi de traiter des cas particuliers.
Oui.
Je parlais de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a un autre qui me semble très intéressant, c'est les Bouts Rouges. Une entreprise a été autorisée à déverser des boues rouges dans la Méditerranée, au grand scandale de tous les habitants, et avec les dégâts écologiques que l'on peut voir. Mais pourquoi? Pas par méchanceté pure, ni de la part de l'entreprise, ni de la part du gouvernement. Parce qu'il s'agissait de sauver l'emploi. Il faut sauver l'emploi. Donc vous voyez bien qu'on est pris dans une logique absolument terrible qui aggrave les problèmes, d'où la nécessité, quelquefois, de rompre avec ce modèle. Absolument. Et ça, ce n'est pas, si vous voulez, sombrer dans l'utopie angélique que de se poser la question.
Mais sur la question des Bouts Rouges, que la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on peut tout à fait être d'accord. Je pense qu'il y a une démesure. Critiquer la démesure est une chose. Penser, parce que je pense qu'il y a une forme de pensée un peu manichéenne, la vision noire de la société présente, auquel va, à un moment donné, avec une dimension utopique et messianique, et ça, c'est une structure, j'allais dire, mentale de pensée de l'écologie telle qu'elle s'est créée. Je pourrais prendre l'utopie ou la mort en 1974 de Dumont, il raisonnait de la même manière, vision noire de la démocratie, des sociétés démocratiques, utopie, et entre les deux, des prophètes et des moralistes. C'était très clair quand vous relisez, et je pense qu'au sein de l'écologie, moi j'aurais préféré que l'écologie reste clairement dans la société de contre-pouvoir à l'intérieur même de la société, plutôt qu'elle se présente comme une vaste alternative civilisationnelle en même temps que politique.
Alors, je suis très heureux que Jean-Pierre Le Goff ait prononcé le mot de démesure, d'hubris, puisque c'est le cœur du problème. Et c'est précisément le problème qu'à mon avis, Jean-Pierre Le Goff ne veut pas voir. Alors, un petit mot pour clarifier le sens de notre débat. À certains égards, moi j'aime beaucoup son livre. Et je souscris dans une certaine mesure. Il me semble que son livre permet de regarder notre monde actuel avec les yeux de la France de 1960-70. Et c'est pas une critique. Quand Tocqueville analyse la démocratie, en Amérique et puis la démocratie en Europe, il la voit à partir de ses yeux d'aristocrate fin d'ancien régime. Et ça permet de montrer un ensemble de choses formidables. Donc cette vision de la France contemporaine vue depuis la France des années 70-80, à certains égards, je la partage. Nous sommes de la même génération, je suis sensible à ça. Bon, simplement, ça pose quelques questions. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté dans cet état-là? Quels sont les facteurs qui ont fait qu'on n'y était pas? Que d'ailleurs, même Jean-Pierre Le Goff lui-même, dans son passé, n'adhérait pas à ce modèle qu'actuellement il prône, dont il regrette le départ. Bon, le point fondamental, c'est là-dessus que je veux en venir, c'est justement ce dont il n'est pas parlé dans le livre. C'est l'évolution du monde économique et c'est le surgissement d'une démesure économique absolument vertigineuse. Eh bien, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Les inégalités, bon, ce n'est pas la peine de citer les chiffres que tout le monde connaît, le 64 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards, 1% de personnes qui possèdent autant que 99%, un chiffre beaucoup plus clair. Entre les États-Unis 1970, puisqu'on parle de 1970, entre les États-Unis 1970 et 1990, l'écart entre, et je m'arrêterai là-dessus puisque je vois l'infini de l'autre qui lève le doigt, qui veut prendre la parole.
Mais allez-y. Bon,
très bien. Merci beaucoup. En 1970, l'écart entre le salaire des ouvriers de base et celui des 100 patrons les mieux payés aux États-Unis était de 1 à 40. 20 ans après, il était de 1 à 1000. Bon. Voilà une illustration de la démesure. Notre monde a effectivement basculé dans une démesure absolument incontrôlable. Et ça, pour moi, c'est le problème fondamental. Et il faut bien essayer de l'affronter. On ne peut pas...
Alors, un mot sur la démesure.
Il est contrôlable démocratiquement un certain nombre de conditions. Et moi, je pense que par rapport à la société civile organisée, dont on aurait un peu la théorie, là aussi, je ne raisonne plus comme ça, si vous voulez. Quant à mon passé qui serait nostalgique des années 50 et 60, écoutez, mon livre, on ne peut pas le voir comme un symptôme de ça. D'autre part, je suis contre la démesure à l'intérieur du système démocratique et par un rééquilibrage. Ce qui est très différent de penser en termes de rééquilibrage que de penser en termes de rupture.
Alors, mais justement, je voudrais m'arrêter un instant sur le mot de démesure. Vous dites, Alain Caillé, que c'est dans un autre registre que celui de la multiplication indéfinie des biens, des droits et des services qu'il faut penser la réalisation de l'idéal démocratique. Sortir aussi de l'hubris, de la démesure. Mais précisément, il y a l'écart les inégalités qui augmentent entre les plus riches et les plus pauvres, mais il y a aussi un autre phénomène. Le phénomène d'Internet. Internet multiplie les services pour tout le monde. Blablacar, Airbnb, Uber. Là, c'est-à-dire, il nous fait entrer, la toile nous fait entrer dans le monde de la disponibilité. D'où un étrange clivage. D'un côté, on nous dit qu'il faut apprendre le sens des limites dans le monde réel, pour sortir de la démesure à tous les niveaux, mais de l'autre côté, on est convié dans le monde virtuel au vertige de l'illimitation. Rien ne fait obstacle au désir, à la convoitise, à la liberté. Le monde est disponible, la réalité même est modelable. Le conspirationnisme qui se développe sur le net est de cet ordre, c'est-à-dire je fais de la réalité ce que je veux qu'elle soit. Et là, on voit une des mesures démocratiques, si je puis dire. Par exemple, j'ai lu le livre sur les libres enfants du numérique. Vos notions juridiques de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement et de contexte ne s'appliquent pas à nous. Elles se fondent sur la matière. Ici, il n'y a pas de matière. Donc voilà. Ici, il n'y a pas de matière. Donc la liberté est totale. Je fais absolument ce que je veux. Comment envisager une société civile mondiale capable de sortir de la démesure ou de nous aider à le faire, alors même qu'elle y est conviée jour et nuit sur la toile.
Oui, moi je suis très sensible à cette question parce qu'effectivement Internet démultiplie le sentiment de toute puissance absolue instantanée à tout moment. Tout est possible. Et donc ça alimente l'illimitation de manière phénoménale. Mais il me semble quand même que à la racine de l'hubris, de l'illimitation, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fond anthropologique ou psychanalytique dont on pourrait parler, affreusement compliqué. C'est à ça que se sont affrontées toutes les religions. La fonction des religions, ça a toujours été de limiter ce désir de toute puissance d'une manière ou d'une autre. Bien. Alors je renvoie d'ailleurs aux objections de Jean-Pierre Le Goff sur la dimension religieuse ou quasi-messianique du convivialisme. Oui, nous n'avons plus de système religieux qui permette de brider ce désir de toute puissance, cette hubris. Et c'est un de nos problèmes fondamentaux. Si on essaie de l'affronter en termes un peu plus immédiatement concrets, il me semble que la traduction la plus palpable, la plus immédiate, la plus visible de ce désir de toute puissance, de cette hubris, c'est quand même l'inégalité financière. C'est l'émergence d'une finance spéculative à l'échelle mondiale. Parce que là aussi, on est dans l'illimitation absolue. En un quart de seconde, en une nanoseconde, on peut virer des milliards d'euros d'un bout à l'autre de la planète. Bien. Donc je crois, et c'est un des aspects du convivialisme sur lequel on sera peut-être finalement d'accord, qu'un des enjeux politiques les plus immédiats, c'est de s'affronter à cette question de l'inégalité financière. Alors ça passe par l'idée peut-être d'un patrimoine maximum. Juste une idée, j'en parlais avec quelqu'un il y a 2-3 jours et qui me donnait sur ce point-là une formulation que je trouve intéressante. Il disait, on pourrait, au-delà d'un certain niveau de patrimoine, on ne va pas taxer des patrimoines de 1 000 euros, 10 000 euros, etc. Mais on pourrait, au-delà d'un certain niveau, prélever par exemple 1,5% par an à titre de loyer sur l'occupation de la terre. Et ça me paraît une très très bonne idée qui permet de mettre en scène le fait que nous ne sommes pas propriétaires de la terre. Nous en sommes simplement locataires, usagers, passagers. Voilà. Alors, question politique concrète. Comment est-ce qu'on fait entrer dans le débat politique concret cette lutte contre l'explosion des inégalités ?
Sur la question des inégalités, moi je pose le problème autrement, si vous voulez. Parce que à travers les inégalités, j'entends aussi capitalisme, néolibéralisme, sans que ces notions soient précisément définies. Or, je pose le problème autrement. Comment se fait-il, dans une période donnée, qu'on en soit arrivé là ? Et poser cette question, c'est pas la réponse ne sera pas d'ordre simplement le lutte contre les inégalités. Ça pose le problème de l'état de nos ressources intellectuelles, politiques et morales, qui fait qu'on peut limiter l'hégémonie d'un certain modèle. Voilà comment je raisonne. Ce n'est pas à partir des inégalités l'économico-sociale. L'économico-sociale nous renvoie fondamentalement à la question des ressources. Et ces mêmes ressources nous renvoient à la question de qu'est-ce qui se passait, et c'est quand même l'objet de mon livre, à la fin du XXe siècle, pour que ces ressources intellectuelles, morales, j'allais dire philosophiques et même religieuses, se soient érodées. Voilà le sujet. Et je pense qu'elles se sont érodées, ce qui nous désarme aujourd'hui vis-à-vis d'un certain nombre de défis, parce qu'il y a eu un changement, un bouleversement, notamment du terreau éducatif, de l'école, mais pas simplement de l'école, de la façon dont les enfants sont élevés aujourd'hui, ce qui nous donne un certain type d'individu désaffilié et qui se trouve sans ressources précisément, y compris pour combattre ça. Il y a une rupture générationnelle beaucoup plus forte qu'antérieurement, et cet individualisme aujourd'hui, on sent bien qu'il est à bout de souffle. Il redemande quelque chose, il redemande une articulation avec du collectif. Le pari que je fais dans la réarticulation avec le collectif, ce n'est pas le grand méli-mélo sentimental et religieux, c'est en retravaillant notre propre héritage spécifiquement européen et j'allais dire républicain.
Oui, ce qui nous désarme, je serai à la fois d'accord et pas d'accord, comme très, très souvent avec ce que fait Jean-Pierre Le Goff, ce qui nous désarme, c'est que nous n'avons plus de fond doctrinal un peu solide. C'est-à-dire, on voit bien que les grandes idéologies dont nous sommes les héritiers, libéralisme, socialisme, communisme, anarchisme, ne sont plus à la hauteur des problèmes que nous avons affrontés. Mais c'est ma partie d'accord, en certaine façon, avec Jean-Pierre Le Goff. Ma part de désaccord, c'est que je pense que Jean-Pierre Le Goff a tellement envie de ne pas retomber dans des erreurs de jeunesse. Mais je suis désolé, je peux pas le dire autrement. Est-ce que je peux m'expliquer ce que je veux dire? Bon, vous avez été maoïste, certainement, c'est pas un reproche. Bon, donc il faut en faire le deuil.
Mais c'est incroyable.
Mais c'est pas parce qu'il faut faire le deuil d'idéologie totalitaire passé qu'il faut refuser de voir certaines réalités. Le refus de penser que le capitalisme, d'utiliser même le mot de capitalisme comme si c'était
mais
scandaleux.
Mais enfin, je l'utilise.
Vous venez dire un instant qu'il ne fallait pas en parler. Mais, et que néolibéraliste, ça n'avait pas de consistance. Mais c'est pas vrai, je suis désolé.
Le capitalisme, mais qui a dit ça?
Mais le capitalisme, enfin,
non, alors, justement. Non, alors, je ne peux pas. Laissez-moi
oui,
répondre sur ce point-là. Cette histoire de tout viendrait de mon passé, j'en ai assez. Vous travaillez Attendez, laissez-moi
partir.
Vous travaillez intellectuellement sur un sujet. Vous travaillez, c'est-à-dire qu'il y a une liberté d'autonomie intellectuelle. Vous relisez le Dalai Lama, vous relisez des choses et on vous dit, mais ça vient de votre passé. Là, je refuse, je pense que ça fait partie de la bien-pensance. Et véritablement, pour moi, c'est un élément de rupture.
Alors, moi, justement, Alain Caillé, vous dénoncez dans votre livre l'hégémonie exercé dans le monde entier par le capitalisme rentier
et spéculatif.
Mais c'est faire bon marché d'un autre problème, d'une autre réalité qui est apparue en 2001, le 11 septembre. Comme le dit Pierre Manant dans son livre « La raison des nations », on s'est rendu compte alors que l'humanité présente était marquée par des séparations bien plus profondes, bien plus intraitables, que nous ne le pensions. Nous avons découvert la réalité de l'ennemi, ce qui d'ailleurs nous renvoie, en France notamment, à notre héritage. Un héritage que nous avions peut-être tendance à oublier en tant qu'individu, membre de la société civile ou civique mondiale. Nous sommes de quelque part, nous sommes les dépositaires, les titulaires d'une civilisation mise en cause par d'autres, et nous nous rappelons qu'effectivement, la nation, c'est comme disait Renan, la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, et que, voilà, ou qu'elle est, comme disait Michelet, la cité commune entre les vivants et les morts, d'où la nécessité, malgré tout, d'un réenracinement. C'est un peu à cela que c'est un peu aussi ce désir qui s'exprime aujourd'hui face à une autre menace que celle dont vous parlez dans le manifeste convivialiste. Oui. Alain Caillé.
Mais moi, je suis totalement d'accord. Et contrairement à ce que semble penser Jean-Pierre Le Goff, je ne pense pas du tout que l'idée de nation soit morte, que l'idéal de la nation soit passé aux oubliettes. Je crois que c'est fondamental. Simplement, il faut l'articuler, ce que je disais tout à l'heure. Il faut raisonner à la fois au plan de la nation, au plan politique et média, et au plan mondial. Sur la nation, je cite très bien une phrase qui, aujourd'hui, ferait absolument scandale de mon maître avancé, Marcel Mauss, dans son texte « La nation ». Quelques lignes.
Allez-y.
En somme, une nation complète est une société intégrée suffisamment à pouvoir central démocratique, à quelques degrés, ayant en tout cas la notion de souveraineté nationale, et dont en général les frontières sont celles d'une race, d'une civilisation, d'une langue, d'une morale, en un mot d'un caractère national. Quelques éléments de ceci peuvent manquer. Bon, mais je passe. Mais dans les nations achevées, tout ceci coïncide. Ces coïncidences sont rares. Elles n'en sont que plus notables, et si on nous permet de juger, plus belles. Car il est possible de juger, même sans préjugés politiques, des sociétés comme des animaux ou des plantes. Et il faut ajouter que pour moi, il n'y avait que deux nations réalisées, la nation française et la nation américaine. Bon, ça c'est 1925. Chez Marcel Mauss, qui était le bras droit de Jaurès, auteur socialiste radical, etc., que je dirais aujourd'hui convivialiste. Le langage a évidemment changé. La moitié des phrases qui sont là seraient immédiatement, vous auriez obuché immédiatement aujourd'hui. Ben, je pense qu'il faut garder en tête ce qu'avait Mauss quand il écrivait cela, à savoir que la nation, c'est la réalisation par excellence de l'idéal démocratique parce que c'est l'espace de solidarité qui existe. Quel est l'autre espace de solidarité qui existe actuellement? Ben, l'Europe ne fait pas le poids là-dessus. C'est pour ça qu'il y a la désaffection. Et bien sûr, et là je rejoins ce que vous disiez, il y a une très très forte aspiration au retour à la nation. Et personnellement, ça ne me choque pas du tout.
Alors là-dessus, vous allez peut-être tomber un peu d'accord, Jean-Pierre Le Goff.
Oui, mais si vous voulez, on tombe d'accord et à chaque fois on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que je ne voudrais pas parler de noyeur de poisson, mais on a affaire aujourd'hui dans l'état de la démocratie à des débats, si vous voulez, où vous essayez d'avoir une position, vous lisez quelque chose, et on vous dit mais non, c'est toujours plus compliqué. Donc on glisse sans arrêt. Je crois qu'on l'a pour cette fois. Nous avons vu nos désaccords et j'en suis très content. Il y a quand même deux choses très différentes. Et de ce point de vue-là, je dirais, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, dans l'état de la démocratie, et ça, tout le sujet de mon livre, c'est le grand méli-mélo de valeurs extrêmement générales avec lequel personne ne peut être en désaccord et de sentiments en guise de nouvel idéal démocratique. Je pense que ça nous désarme véritablement vis-à-vis des ennemis qui veulent nous détruire, d'une part. Deuxièmement, je pense qu'il y a un niveau de débat, et quand je regarde la façon dont on peut repenser la gauche, d'un degré de généralité, sur la question de l'égalité, on fait comme si j'étais contre je suis pour lutter contre les inégalités, mais la notion d'égalité, par exemple, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Je l'articule à la liberté, peut-être serons-nous d'accord. À chaque fois qu'on me dit égalité, ça devient un mot valise dans lequel la doctrine de la gauche étant en morceaux, on se raccroche à ça comme un espèce de mot fétiche sans définir précisément ce qu'on veut. Alors il y a toujours l'économico-social, ça c'est du solide. Mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, puisqu'on parlait du néolibéralisme, qu'est-ce que c'est que la famille néolibérale? Qu'est-ce que c'est que la critique du genre ou l'épuration auxquelles on assiste aujourd'hui dans les écoles, c'est du néolibéralisme, c'est du capitalisme, c'est un mot magique. Je suis évidemment critique pour limiter le capitalisme, mais je veux dire, il ne faudrait pas qu'on ait affaire à des notions qui soient des notions, des espèces de notions fétiches, qui jouent dans un débat qui me paraît de plus en plus abstrait par rapport à l'état effectif de la société, et j'ajouterais des couches populaires. Alors s'il y a un point avec lequel dans mon passé je demeure sensible en dehors des idéologies et du fanatisme qui a pu m'habiter, eh bien c'est cette dimension de sensibilité aux couches populaires. D'autre part, je pense que le manifeste du convivialisme est resté bloqué sur un imaginaire qui date, à mon avis, des années 70-80, où ce n'est plus le mouvement ouvrier qui existe, c'est le tissu associatif dans sa dynamique. Je suis et je participe de ce tissu associatif dans la société, mais je ne donne pas une prétention de civilisationnelle, politique ou éthique à cette dimension-là. Pour moi, il s'agit, selon les idéaux de l'éducation populaire, de développer l'esprit critique au sein de la nation, de partager le patrimoine culturel commun, encore s'agit-il de savoir quel est ce patrimoine, et enfin, je dirais, de former des élites issues du peuple. Ça, pour moi, la question des élites est centrale avant même l'espace de débat au sein de la société.
Votre ultime message, Alain Cahier.
Pour déplacer un tout petit peu la discussion, la Revue du Mot s'est créée en 1980 à la suite d'un constat. Le constat que l'ensemble des sciences sociales commençait à parler uniquement du point de vue de l'homo economicus, du point de vue de l'individu rationnel. Nous étions tous, et la philosophie politique aussi, John Rawls, la théorie de la justice, c'est la même idée. On va fonder la démocratie sur l'adhésion rationnelle d'hommes économiques rationnels, mutuellement indifférents. Je reprends la formule de Rawls. Bien, ok. À partir de là, on voit très bien comment les choses s'enchaînent. Quelques années après, on va avoir la légitimation de ce qu'on ne peut pas appeler autre chose qu'un capitalisme rentier spéculatif. Car si nous ne sommes que des homo economicus, à ce moment-là, le seul souci légitime, c'est de satisfaire le plus possible notre désir d'enrichissement. Et si le seul objectif dans la vie, c'est l'enrichissement matériel, qui est la traduction la plus simple de l'intérêt personnel, si le seul souci, c'est cela, à ce moment-là, autant, tant qu'à faire, autant aller le plus vite possible, à travers la spéculation ou la corruption, etc. Eh bien, nous en sommes là. Et voilà, on peut mettre le mot qu'on voudra là-dessus, capitalisme rentier spéculatif ou néolibéralisme, on peut discuter des variantes, mais en tout cas, ça existe et c'est notre problème fondamental.
Et c'est de cela, selon vous,
qu'il faut essayer de sortir.
Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ce débat. Jean-Pierre Le Goff, je rappelle le titre de votre livre, Malaise dans la démocratie. Il est publié chez Stock. Alain Cahier, Le convivialisme en 10 questions, un nouvel imaginaire politique aux éditions Le Bordelot. Toutes les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1001 nuits. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Les leçons du 13 novembre 2015. Mes invités seront Gilles Kepel et Raphaël Liogier. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lachard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Julien Douminc. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet, La Troisième République et la violence anarchiste, Liberté ou sécurité avec Jean Garrigue.